Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la grande chat, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Cécile Muscotti, ex-tête de liste PS dans le Var aux dernières élections régionales, cofondatrice de Debout la Gauche, secrétaire fédérale du PS 83, membre du Conseil national du Parti socialiste et candidate aux législatives dans la deuxième circonscription du Var. Bonjour Cécile Muscotti.
Bonjour.
Vous l'aurez compris, on va parler de présidentielle de la gauche, des législatives et du territoire. Mais auparavant, Cécile Muscotti, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité. Et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Elle est jeune, elle est blonde et elle fait de la politique dans notre belle Provence. Désolé de décevoir les nostalgiques de Radio Paris du temps de l'occupation, se tomber par erreur sur la fréquence de Grenouille. Ne pleurez pas, mais notre invité n'est pas Marion Maréchal, nous voilà Le Pen. Nous recevrons donc aujourd'hui Cécile Muscotti. Vous êtes jeune, vous êtes blonde et vous faites de la politique dans notre belle Provence. Tout en haut de votre CV, à la rubrique Atout, vous indiquez « goût du défi ». Et il en faut pour porter les couleurs du PS dans le Var. Comme à la région, il n'y a plus un seul élu de gauche ou écologiste siégeant au conseil départemental. Les députés varois sont tous LR et la droite truste la quasi-totalité des mairies et des mandats au Sénat. Le PS vous a désigné comme candidate aux législatives dans la deuxième circonscription, celle de Toulon, où se présente l'inamovible Philippe Vittel. Un sacré défi donc, même si à 29 ans, vous avez beaucoup baroudé en politique. Déjà, à 15 ans, entre deux cours de danse classique, vous présidez les jeunesses communistes du Var. En 2008, pour vos 19 ans, vous obtenez votre premier mandat comme conseillère municipale à la Seine-sur-Mer, déléguée à l'insertion professionnelle et culturelle des jeunes. La formation professionnelle, c'est d'ailleurs votre métier. Vous êtes désormais coordinatrice au CFA de la Seine-sur-Mer. Mais revenons à la politique. L'âge de raison, pour vous, c'est 23 ans lorsque vous prenez votre carte au PS. Secrétaire fédéral dans le Var, vous êtes aussi membre du Conseil national. Votre goût du défi vous a permis de collectionner quelques vestes électorales. Candidate au cantonal en 2015 à la Garde, vous êtes éliminée dès le premier tour avec 17%. Tête de liste dans le Var, aux dernières régionales, vous êtes aussi éliminée au premier tour avec 13,5%. À la primaire, votre candidat, Vincent Peillon, est éliminé au premier tour avec 6,5%. Mais rien ne vous décourage, surtout pas les insultes sexistes et les menaces de mort de la fachosphère exécrant votre engagement féministe. Et vous avez lancé l'an dernier, avec d'autres jeunes trentenaires socialistes de la région, le mouvement Debout la gauche. En voilà un nouveau défi. Avec Christophe Castaner, votre ancien leader au régional, désormais macroniste. Avec un candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, dont vous jugiez le programme indéfendable. Avec les insoumis de Mélenchon qui veulent renverser la table. La présidentielle s'annonce périlleuse pour le PS. Heureusement, sur votre CV, vous revendiquez un autre atout. Je vous cite, l'adaptation rapide à de nouveaux environnements. Et ça, en politique, ça n'a pas de prix.
Cécile Muscotti, une réaction à ce portrait à la sauce ravie, bien sûr.
Non, il est très bon, avec beaucoup d'humour, surtout sur les différentes vestes qu'on se prend dans le Var et dans la région PACA de manière globale. On aura peut-être l'occasion d'en revenir. Je choisis peut-être pas le bon cheval, en fait, à chaque fois.
Alors avant d'arriver à cette campagne des présidentielles, puis les législatives par la suite, un mot peut-être sur ce quinquennat François Hollande, un bilan en quelque sorte de ce quinquennat François Hollande, des affections de l'électorat, une scission des socialistes de la gauche. Quel bilan vous tirez de ces 5 années de François Hollande au gouvernement ?
Un bilan compliqué quand on le prend du point de vue du militant socialiste. Je ne vais pas faire la liste de courses. Pour moi, c'est un bilan qui a fait avancer notre pays sur tout un tas de domaines, sur l'éducation, sur la santé, sur la protection de chacun d'entre nous. En revanche, ce qui est compliqué aujourd'hui, et on en récolte malheureusement les conséquences, c'est l'état du Parti socialiste où pendant plus de 4 ans, on a dû faire face à ce qu'on appelle ces frondeurs qui n'ont pas utilisé l'appareil politique pour essayer de régler leurs comptes ou alors d'avancer d'autres propositions, mais plutôt de se ruer dans les médias et pour fragiliser finalement la majorité gouvernementale. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué.
Alors, les frondeurs, vous les avez cités, mais ce sont finalement que les porte-paroles d'un électorat déçu, les frondeurs.
Porte-parole, oui et non. Se ruer...
Les sondages de Hollande n'ont jamais été brillantissimes.
Non, évidemment. Il y a après la réalité.
Donc ça veut dire qu'il y a une vraie désaffection.
Je pense qu'il y a un souci de communication. Je pense que si j'avais un reproche à faire aujourd'hui au président de la République, ce serait de ne pas avoir pris le temps d'expliquer aux Français quelle était sa feuille de route, où est-ce que véritablement il voulait nous emmener et comment. Et on est en train petit à petit finalement de bénéficier de toutes ces grandes réformes qu'il a mises en place, même s'il aurait pu aller plus loin, notamment sur la réforme fiscale. Mais encore, peut-être que 5 ans est un mandat trop court. Mais en tout cas, je pense que c'est un souci véritablement de communication auprès des Français et auprès des militants socialistes.
Pourtant, les journalistes, ils les recevaient souvent, François Hollande.
Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez...
Un peu à tort et à travers, diront certains. Enfin.
Bon, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on fait de la politique, on est entouré de communicants. C'est-à-dire qu'on définit ensemble la stratégie, c'est-à-dire comment on va faire en sorte de mettre à la portée de tous les avancées, expliquer, argumenter et plutôt éclairer le chemin que l'on souhaite prendre.
Michel ?
Mais autre souci, et puis petit souci, mais c'est peut-être un euphémisme, pour vous, pour le PS, pour cette campagne, il y a eu une primaire, votre primaire, organisée par votre parti, et le résultat est très clair. C'est-à-dire que les gens qui ont participé ont choisi... désigner Benoît Hamon, qui est ce que vous appelez un frondeur.
Alors, qui était ce qu'on appelait un frondeur.
Mais... En tout cas, il s'est fait élire sur cette base-là, sur la base de la critique qui était celle des ouais. frondeurs, hein, parce que c'est une grande famille. Mais,
Je pense qu'il faut quand même remettre dans le contexte l'organisation de cette primaire citoyenne, puisque au départ, la majorité du Parti Socialiste, dans laquelle je fais partie, nous ne voulions pas passer par ce système-là, qui en 2011 avait toutes ses raisons, mais qui, avec un président de la République socialiste sortant, devait être re-questionné. Les frondeurs ont une fois de plus joué de leur grosse voix au Conseil national pour imposer et s'appuyant finalement sur la réalité et sur le droit qui est celui des statuts du Parti socialiste.
Cécile Muscotti, 29 ans, est contre l'expression populaire à travers un vote ?
Absolument pas, absolument pas. Je pense simplement que quand je dis qu'il faut rappeler, il faut ramener au contexte cette primaire, puisqu'on a, c'est la particularité de cette année, un président de la République sortant socialiste. Maintenant, aujourd'hui, Benoît Hamon est le candidat socialiste et a toute cette légitimité. Je ne le remets absolument pas en cause.
Michel ?
Les gens ont voté pour lui, le peuple de gauche, en tout cas celui qui s'est exprimé, qui a choisi de s'exprimer par le biais de la primaire. Ça remet quand même en cause les orientations du mandat et peut-être vos orientations à vous. Ou non, vous pensez que ce n'est pas significatif, il n'y a pas eu assez de votes exprimés
Non, il a cette légitimité là, je la remets absolument pas en question. Moi, dans cette primaire, j'ai fait le choix de soutenir un autre candidat avec un programme
Vincent Peillon,
avec un programme qui justement vient se confronter sur certains points à celui de Benoît Hamon, ce qui me bloque aujourd'hui sur certains aspects de cette campagne présidentielle. Et c'est pour ça que j'attends de mon candidat socialiste qu'il pose sur la table les conditions du rassemblement de la gauche et d'abord parmi la famille socialiste.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes pleinement derrière Benoît Hamon ou est-ce que vous traînez les pieds ?
Non, c'est pas que je traîne les pieds, c'est que je voudrais qu'on crée les conditions, mais je parle du fond, je parle du programme, je parle du projet, de quel chemin prendra la France demain ? Aujourd'hui, il y a des choses qui sont pas claires avec Benoît Hamon et c'est l'occasion ou jamais de regarder ce qui se passe ailleurs. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. L'ensemble des jeunes qui se tournent notamment vers Macron, on peut pas fermer les yeux. Il faut écouter, il faut regarder.
Alors soyons justement un peu concrets. Tout à l'heure, je vous citais dans le portrait, vous avez dit que le programme de Benoît Hamon était par certains aspects indéfendable. Alors qu'est-ce qu'il y a pour vous d'indéfendable ? Un point ou deux ou trois dans ce qu'il a défendu pendant cette primaire et qu'il défend encore dans cette campagne.
Il y a plusieurs points. Le revenu universel en particulier, qui est un aspect de son programme que j'ai combattu entre guillemets, parce que c'est la confrontation d'idées, c'est intéressant. Les primaires citoyennes, elles sont intéressantes pour ça. Parce que je défendais le projet de Vincent Peillon. Aujourd'hui, je ne pense pas que la France de demain, les jeunes générations, souhaitent qu'on se tourne vers ce type de projet-là. Aujourd'hui, et surtout je le vois dans mon travail, hein, où j'accompagne des jeunes et des moins jeunes vers l'insertion professionnelle, ce que veulent les jeunes aujourd'hui, c'est pouvoir faire un métier qui leur plaît. C'est pouvoir se sentir bien dans l'entreprise dans laquelle ils sont, pouvoir travailler dignement. Alors dignement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avec un salaire à la hauteur de leurs compétences, avec un temps de travail évidemment encadré qui leur permet de faire tout un tas d'autres choses à côté. Et Et aujourd'hui, le revenu universel, en termes d'image, en termes de chemin que devrait prendre la France, ne me paraît absolument pas correspondre aux attentes de la jeunesse.
Vous diriez, comme Valls, que le revenu universel, ça serait source d'assistanat et de farniente ?
Pas forcément, parce qu'il faut, attention, ce sujet est très délicat, il faut qu'on soit, je suis profondément socialiste et profondément de gauche, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à maintenir toutes les aides qui nous accompagnent aujourd'hui dans notre parcours professionnel. Mais c'est un point très important, parce que ce que j'ai l'impression que Benoît Hamon n'a pas forcément compris, c'est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus même comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, on prend un chemin professionnel qui va connaître un moment des stops, des temps morts, où il faut que les agences de recherche d'emploi nous accompagne beaucoup plus facilement, parce qu'aujourd'hui c'est dramatique. Il faut qu'on puisse nous accompagner aussi dans ce changement de route, dans cette montée en compétences, dans cette pause de carrière. C'est fini le temps où on allait dans le même sens que nos grands-parents, où on allait de père en fils, sur le même chemin professionnel. Donc il faut plutôt chercher à accompagner les jeunes, les moins jeunes, dans leur activité professionnelle, que de proposer une sécurité simple. Sans avenir derrière.
Michel ?
Alors on parle de travail, et puis c'est votre domaine. Est-ce que vous partagez une autre proposition forte de Benoît Hamon, à savoir l'abrogation de la loi travail qui a mobilisé beaucoup de monde dans la rue Est-ce que vous êtes sur cette position ? Il y a eu un débat, puis finalement il a reprécisé, il a dit oui, je vais bien abroger cette loi si je suis élu.
Non, je ne suis pas complètement d'accord, parce que dans cette loi, il y a plein de choses. Mais il y a surtout une révolution dont on a peu parlé. C'est que jusqu'à présent, on prenait en compte la situation des individus par rapport à leur statut. C'est-à-dire que soit vous travaillez dans le privé, soit vous travaillez dans le public, soit vous ne travaillez pas, et en fonction de votre statut, vous avez le droit à tel ou tel accompagnement à la formation professionnelle ou d'indemnité chômage, etc., etc. Cette loi de travail, elle est révolutionnaire parce que pour la première fois, on ne va pas prendre en compte le statut de chacun, mais bien l'individu en tant que tel. Et donc, le compte personnel d'activité, c'est permettre à chacun d'accompagner ce changement de route dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire avoir des appareils qui fonctionnent rapidement pour venir combler un manque de salaire à un moment donné, pouvoir monter en compétences à travers une formation professionnelle, pouvoir, ou au contraire, changer de branche à travers un autre métier, une branche d'activité, assurer cette transition dans la dignité.
D'accord. Alors, un point important là-dessus, et là aussi, votre candidat, enfin... Pour l'instant, peut-être, on en parlera. Votre candidat dit il faut rétablir la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que la loi travail, introduit de la souplesse pour permettre de redonner l'importance aux accords de branche ou d'entreprise. Et c'était ce qui était combattu. Le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, dit non, il faut revenir à la hiérarchie des normes, c'est-à-dire les accords de branche doivent être plus important.
Ouais. Oui. C'est aussi tout le cœur, et je vous remercie qu'on parle un petit peu plus de fond dans cette émission, parce que les branches professionnelles, moi je travaille de manière assez directe avec elles. Effectivement, elles ont une réglementation qui est en lien avec la réalité du domaine professionnel auquel elles s'adressent. Donc c'est à prendre en compte. Tout ce qui était de dire aujourd'hui les patrons décideront, les salariés ne seront plus écoutés, c'est faux. C'est faux. Je l'ai dit sur un plateau de France 3, quand les grosses manifestations avaient lieu, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Parce que ce qui se jouait là, dans ces manifestations, c'était une négociation entre syndicats. Parce que, à travers cette loi travail, ça maintenait le socle de la représentation syndicale des salariés. Aucune décision, peu importe la branche professionnelle, ne pourrait être prise sans la validation du syndicat majoritaire représentant les salariés. Sauf que, vous savez comme moi, que la CGT, dans les petites et les moyennes entreprises, elle n'est pas majoritaire. Parce que cette loi travail aussi impliquait du financement supplémentaire aux organisations syndicales. Et il était là l'enjeu. Et j'ai trouvé du coup tout ce débat et toutes ces manifestations tronquées depuis le départ.
Vous prenez des risques là en campagne électorale, c'est-à-dire vous dites les électeurs de gauche sont trompés de candidats à la primaire, les électeurs de gauche sont trompés en manifestant.
Je ne dis pas qu'ils sont trompés.
Est-ce que vous ne craignez pas, et certains le font, les mélenchonistes, en disant mais au Parti Socialiste finalement des gens comme vous peut-être ne sont peut-être plus de gauche ou
non,
sont allés vers autre chose.
Absolument pas. Alors, attention, je ne dis pas que les gens se sont trompés. Je dis que les appareils, parfois l'appareil syndical ou l'appareil politique, mènent en bateau. Nous tous, on est menés en bateau. C'est ça que je dis. Et je suis profondément de gauche quand je dis et que j'affirme qu'il faut que les syndicats puissent être représentés dans chacune des décisions d'une entreprise. C'est être de gauche de dire qu'il faut écouter les salariés, qu'il faut avoir une organisation capable de faire remonter leurs propositions et capable de garantir leurs droits.
C'est une gauche qui pourrait apparaître, peut-être pour certains, plutôt édulcorée, non ?
Édulcorée ? Oui. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est une gauche simple qui répond à des objectifs clairs et qui arrête la malhonnêteté et qui arrête de mettre le système apparatchik en permanence sur le tapis et nous faire croire qu'on se bat pour nos intérêts alors que ce n'est pas le cas.
Un troisième point programmatique, la question de la fiscalité, la question peut-être de l'Europe et autour de ce grand ensemble qu'on peut appeler allez, la finance. Le fameux discours du Bourget de Hollande, mon ennemi c'est la finance, puis un quinquennat où on n'a pas vraiment senti quelle était la bataille qui était menée contre la finance.
54 milliards de dividendes ont été distribués durant ce quinquennat.
Le bras de fer annoncé avec l'Europe de Merkel pour rééquilibrer les choses et finalement, bon, alors là, Benoît Hamon dit, mais moi, je vais renouer avec cette ambition-là. Et là, vous êtes en phase avec ce candidat.
Là, je peux être d'accord. Mais c'est pour ça que je suis quelqu'un. J'essaie de faire de la politique honnêtement. C'est pas tout noir ou tout blanc.
Qu'est-ce qui a été raté dans le quinquennat par rapport à cette bataille-là?
Alors raté, je ne sais pas. Peut-être par manque de temps. Mais effectivement, un des points principaux que je reprocherais au gouvernement de François Hollande, c'est ce manque vis-à-vis de la fiscalité et une grande réforme que nous attendions tous. Une grande réforme qui nous mène vers l'équité et qui aujourd'hui n'est pas là. Et les classes moyennes en particulier, dont je fais partie, on ne peut que clairement s'en rendre compte au quotidien. Après, sur l'Europe, pour le coup aussi, le couple franco-allemand, Benoît Hamon a raison de dire qu'à un moment donné, il faut replacer le périmètre de cette Europe qui doit être une force majeure.
Il dit moratoire sur le pacte de stabilité.
Oui.
C'est une bonne idée.
Bien sûr. Bien sûr. Mais oui.
Vous allez finir à la fin de l'émission, vous allez voter à Hamon, vous allez voir. On a vu que ce quinquennat, on ne va pas tout détailler l'ensemble du quinquennat, mais il y a quand même eu une rupture entre la gauche et sa base sociologique. Aujourd'hui, vous parlez des classes moyennes qui également s'écartent du Parti Socialiste. Comment faire, que dire, quel est le candidat pour vous qui renouerait avec cette base? Alors on a vu, Payon a perdu, Hamon a été choisi, mais apparemment votre cœur balance pour un autre candidat.
Mon cœur balance. Je ne sais pas si
votre raison,
l'image. Oui, peut-être la raison. Non, moi, surtout ce que je prône, c'est l'ouverture d'esprit. Alors la phrase qui circule en ce moment, c'est il ne faut pas insulter l'avenir. Alors, on l'entend à tort et à travers. Effectivement, quand on voit le candidat Macron, alors moi, je le suis avec curiosité. Hein. J'ai écouté son meeting à Lyon. J'avais du mal à être convaincue hein, par tout ce discours-là. Il est venu chez moi à Toulon, donc je l'ai évidemment écouté. Et là, pour le coup, c'était un discours qui s'ancrait dans ma vision de la France de demain, qui s'ancrait parce qu'il garantissait le socle républicain. Hein. Il utilisait le triptyque liberté, égalité, fraternité et il l'appuyait par une déclinaison de propositions, contrairement à ce qui est dit partout, où est le programme d'Emmanuel Macron. Il sera là apparemment début mars, il sera en ligne sur son site début mars. Mais d'ici là, nous avons quelques...
T'as une élection au mois d'avril, hein ?
Oui, bah oui.
C'est cool.
Mais parce qu'il fait de la politique différemment. Je ne sais pas si vous avez tenté, si vous l'avez testé sur le site internet, sur les comités citoyens qui se mettent en place, mais il y en a quelques-uns chez moi. J'ai assisté à un sur l'éducation qui était assez intéressant. Les remontées sont impressionnantes. Mais j'en tire des leçons. Je me dis, nous, au Parti Socialiste, c'est ce qu'on devrait faire depuis des années. Pourquoi, lorsqu'on travaille, quand on fait remonter à l'appareil national, on n'a pas cet aller-retour aussi rapide qui nous permette ensuite de construire des propositions réelles sur le territoire?
Michel ?
Alors, vous étiez tête de liste au régional dans le Var, et puis votre candidat, Christophe Castaner, tête de liste donc pour l'ensemble de la région, lui, depuis un moment, avant d'ailleurs que ce soit un peu la mode, a rallié Castaner. Macron. Le lapsus. Ce serait pas peut-être plus simple de faire la même chose, ou peut-être plus honnête, à vous entendre, on sent qu'il y a un intérêt par rapport à la dynamique Macron et qu'il y a peut-être plus de proximité ou des proximités plus fortes avec ce candidat qu'avec celui choisi par le Parti Socialiste.
Pas forcément. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'il est hors de question que nos enfants grandissent dans une France menée par François Fillon ou par Marine Le Pen. Et aujourd'hui, vu les sondages, hein, alors après, on y prête toute la précision qu'on y veut, mais en tout cas, les sondages aujourd'hui ont tendance à nous faire très peur. Donc, est-ce que on arrive à dépasser quelques clivages, non pas idéologiques, mais quelques clivages d'appareil, pour décider de proposer autre chose à nos enfants? Ou, finalement, vous savez, ces discours qu'on entend au Parti Socialiste, qu'on dit, bon, allez, On fait l'impasse sur cette élection présidentielle, on fait l'impasse sur ces législatives, le temps que le Parti socialiste retrouve un peu une ligne plus claire, et puis on verra après. Non, moi je ne ferai pas ce sacrifice-là.
On va se parler franchement, c'est la grande chat, on est dans l'émission du Ravi, vous attendez donc Hamon se plante.
Non, j'attends qu'Hamon discute avec Macron.
À la présidentielle, et ensuite au premier tour et au deuxième tour, vous appelez à voter Hamon, oh là là,
Macron.
J'arriverai pas, hein, décidément. Macron. Et ça serait plus facile de constituer une majorité avec lui sur sa base programmatique.
Alors, moi, ce que je veux, c'est que la gauche triomphe. Je veux que la gauche.
Alors lui, il dit je suis ni de droite ni de gauche.
Non, il dit je suis et de gauche et de droite. Oui. Et oui, distinguo subtil quand même.
Et ça, c'est bien. Alors sur le fond, ce clivage-là, il est.
Je pense qu'il faut
le dépasser. Il ennuie les électeurs.
C'est pas le clivage gauche-droite qu'il faut dépasser. C'est le clivage de l'appareil aujourd'hui qui fait peur. Regardez dans les sections. Du PS, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou chez moi dans le Var. Il n'y a plus un chat.
500 adhérents dans le Var.
Voilà.
Ah, il y en a moins.
On arrondit pas mal.
Il y en avait 2000 en 2008, c'est ça? Je ne me trompe pas?
À peu près. C'est à peu près ça. Mais ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est la moyenne d'âge de nos militants. Moi, j'ai commencé un petit peu à travailler, à faire des comités de citoyens sur mon territoire. Je les remercie profondément d'avoir ces vieux camarades qui ont plus de 75 ans, qui m'apportent plein de choses, hein, plein de propositions. Mais où sont les jeunes? Où sont passés les jeunes?
Alors je reviens quand même sur le clivage gauche-droite sans faire de l'archéologie politique, mais on a rappelé que vous avez démarré au Parti communiste, mm-hmm. vous étiez l'incarnation des jeunesses communistes mm-hmm. dans le Var. Et donc, il y a eu un recentrage là.
Il n'y a pas eu de recentrage. Mais
À 29 ans, vous allez bientôt, en toute logique, faire quasiment trois partis, hein, le communiste, le socialiste et le Parti En Marche de Macron.
Non, alors déjà, En Marche est un mouvement, c'est absolument pas un parti politique. Je suis au Parti socialiste et je resterai au Parti socialiste. Je n'ai fait que deux partis, le Parti communiste, et j'en suis très fière. Parce que l'appareil de formation, la formation que j'ai reçue du PC est vraiment une formation de base passionnante et qui, à mon avis, pose toutes les pierres nécessaires quand on veut construire ensuite ses projets, ses idées, puis sa façon de militer, hein, son organisation, hein, c'est-à-dire une organisation presque militaire parfois, mais aujourd'hui qui porte ses fruits. Non, il n'y a pas. Moi, j'ai gardé les mêmes valeurs depuis le départ. Depuis le départ, je n'ai pas changé.
Donc, logiquement, si on suit ce que vous venez de dire, au-delà des clivages, au-delà des appareils, vous venez du Parti communiste, vous êtes socialiste, vous dites que vous êtes de gauche, on vous attendrait plutôt du côté de Mélenchon. C'est même pas une option que vous avez citée depuis le début de l'émission.
Non, absolument pas. Je ne l'ai absolument pas citée. Et pour vous dire, regardez aujourd'hui. On pourrait tout à fait se dire, enfin, Mélenchon a le candidat socialiste dont il rêve en face de lui. Je veux dire, Benoît Hamon. Sur des lignes politiques qui sont très proches, l'union de la gauche va enfin arriver. L'union de la gauche et même des écologistes avant le premier tour. Alléluia, on y est.
Alors Mélenchon, il a ses contradictions, on pourra en parler si vous voulez, mais il met le doigt sur quelque chose assez intéressant. C'est quelle majorité peut avoir un Benoît Hamon s'il est élu président? C'est-à-dire que les candidats, vous êtes candidat aux législatives du Parti socialiste. Ils sont plus sur votre ligne, dans une grande majorité, que sur celle des frondeurs, très très clairement.
Et oui.
Donc il y a effectivement une contradiction, c'est-à-dire que Benoît Hamon, élu président, avec une majorité socialiste dont vous seriez membre, aurait quand même une grande difficulté à appliquer le programme des frondeurs pour simplifier les choses.
D'où l'intérêt de travailler dès maintenant sur les conditions du rassemblement. Mais vous savez,
peut-être la difficulté pour les mélenchonistes de rallier un Hamon et vos troupes.
Ouais, alors c'est un peu tiré par les cheveux.
Vos troupes qui ne veulent pas abroger la loi El Khomri, etc.
Il y a certains points de la loi El Khomri qu'on pourrait peut-être revoir ensemble. C'est un exemple parmi tant. Ça veut dire ça, se mettre autour de la table et travailler au rassemblement. C'est prendre les points un par un, les grands sujets un par un et trouver. Pas simplement de dire parce que j'ai peur que si on élit des députés qui ne soient pas véritablement de la majorité, on n'y arrivera pas à gouverner. Les appareils fonctionnent comme vous le décrivez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens fuient. C'est pour ça que les gens aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de la politique. C'est pour ça que les gens aujourd'hui ne se déplacent plus pour voter et mettent dans ce gros sac de dépoliticiens les tous pourris. C'est à cause de ce genre de fonctionnement-là. Donc soit on décide d'arrêter et de travailler et de réfléchir ensemble, soit on continue. Mais alors... À quel prix?
Donc finalement, la phrase de Macron, candidat anti-système, ça vous convient?
Alors, anti-système, là c'est la même chose. Il ne faut pas non plus
tout le monde aujourd'hui est anti-système.
Oui, c'est ça. Alors, il faudrait qu'on explique exactement ce que c'est le système. Moi, je parle d'une logique d'appareil politique qui est souvent parfois même meurtrière pour les idées. Et on le vit hein, même au quotidien. Hein. Vous savez, il y a une telle différence entre un militant de gauche ou de droite, d'ailleurs, j'imagine, mais un militant de gauche sur sa section, dans sa fédération, et le politicien que l'on voit à la télé, il y a un gouffre. Le problème, c'est que les gens ne le voient pas. Quand moi, j'explique que je prends sur mon ton personnel, que je mets parfois entre parenthèses ma famille, mes amis, parce que je vais passer du temps à réfléchir, parce que je vais passer du temps sur les marchés, parce que je vais passer du temps en réunion d'appartement, les gens sont un peu abasourdis. Ah oui, c'est ça la politique, et c'est ça qui nous fait vivre. Mais en fait, on est de moins en moins nombreux à aller sur ce terrain-là. Et pourtant, si on aime ça, on n'est pas maso, hein. Si on aime ça, c'est qu'il y a un intérêt.
Alors que ferait un Macron s'il était président, qu'on n'a pas fait un Hollande ? C'était quand même son ministre de l'économie, donc... Mm-hmm. Il y a potentiellement une grande continuité entre la politique de l'un et de l'autre.
Sûrement. Vous savez, moi, je suis une Hollandaise historique.
C'est une arnaque.
Je ne sais pas si c'est une arnaque.
Il est censé incarner un changement, une nouveauté, une bascule. Il veut renverser la table, mais faire la même politique.
Je ne sais pas si faire la même politique, je ne pense pas, puisque ce sont ces comités citoyens qui réellement constituent le projet autour de Macron. Mais n'oublions pas non plus que Macron a été ministre d'Hollande, mais Camon aussi.
Oui, de manière éphémère, mais il l'a été, oui. L'éducation nationale.
Il était en charge de l'économie sociale et solidaire.
Et de l'éducation nationale.
A priori, il était assez en cohérence avec ses idées sur son segment.
Alors, quand on est de gauche, on n'est pas obligé d'uniquement se focaliser sur quelques compétences et de mettre de côté tout le système économique. Et le système économique libéral dans lequel la France vit, c'est une réalité. Comment on régule, comment on accompagne, comment on s'en sort, comment on gagne.
On assiste quand même à un moment curieux politique en France.
Oui.
C'est-à-dire
que
là, vous êtes quand même, on va simplifier, vous êtes le numéro 2 de la petite...
Numéro 1 bis,
allez, si vous voulez, de la Fédération Socialiste du Var. Vous êtes en campagne derrière un candidat et on entend bien, nos auditeurs entendent bien que vous êtes quand même très très loin idéologiquement de ce qu'il peut défendre, que vous êtes pas loin d'être plutôt derrière un autre candidat.
C'est compliqué.
On voit les additions. Alors, on se méfie des sondages parce qu'on voit que les sondeurs ont du mal à photographier la réalité. Mm-hmm. Mais si on fait les additions, si on ajoute Hamon et Mélenchon, ils sont au deuxième tour. Si on additionne Macron et Hamon, vous êtes au deuxième tour. Mm-hmm. Il y a un risque, c'est le dernier sondage qui vaut ce qu'il vaut, mais il y a un risque d'élimination de la gauche dès le premier tour.
C'est ça. Évidemment.
Des gauches.
C'est ça, des gauches.
Irréconciliable ou pas alors, ces gauches ?
Non, moi j'y crois, mais je ne suis pas responsable. C'est pas moi la candidate aux élections présidentielles. Donc,
vous êtes en politique depuis une dizaine d'années, vous êtes candidate, vous êtes donc co-responsable de ce qui se construit là devant nous.
Oui, moi j'assume la part de responsabilité qui est la mienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, juste de toutes mes forces pour les interpeller, pour leur dire haut et fort, arrêtez, mettez-vous autour de la table. Je l'ai dit, je le redis. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est compliqué. Mais je ne suis pas la seule. Autour de moi, tous les gens de gauche qui sont des adhérents ou simples
sympathisants.
Et finalement,
ça sert à quoi, pour aller très très vite, parce qu'on arrive au milieu de l'émission, ça sert à quoi qu'un Hamon rejoigne Macron, puisque Macron, s'il est élu, sera président de la République et il aura une opposition, ça fera un deuxième mandat Hollande bis ?
Non. On peut pas, de toute façon, on peut pas schématiser les choses comme ça. La question, quand on part sur la construction d'un projet, parce que personne n'en parle de ces projets présidentiels, celui d'Hamon, on le résume en deux tronc-points, les 32 heures, le revenu universel, celui de Macron, on le résume à la suppression du RSI, il y a d'autres choses derrière. Il y a d'autres choses derrière, c'est l'avenir de la France.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous Cécile Muscotti. On parle des présidentielles, on parle des législatives. Michel ?
Est-ce que justement dans cette recomposition que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire des passements, des chapelles, etc., est-ce qu'il faut aller, ce qu'on n'a pas fait Hollande, jusqu'à intégrer, alors on attend, là il va y avoir un décalage entre l'enregistrement de cette émission, sa diffusion, mais Bayrou doit s'exprimer sur ses intentions, mais est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à cette droite-là, c'est-à-dire une droite républicaine, réformatrice
Je suis pas
sociale sur certaines questions.
Sur certaines questions, mais voilà, vous le dites, sur certaines questions.
Macron le souhaite, hein, il a fait des appels du pied.
Ouais. Ce qui est intéressant,
voire même des jupéistes qui ont l'air assez déstabilisés par l'orientation très extrémiste que peut prendre une partie de la droite.
Bien sûr.
Est-ce qu'il faut fédérer tout ce monde ?
Alors, tout ce monde, si on arrive à trouver un socle commun, moi ce que je porte, c'est la construction d'un projet commun. Si chacun de sa chapelle respective, de son appareil politique respectif, est en capacité de venir mettre une petite pierre sans forcément demander et faire ressurgir un ego surdimensionné du politique. On aura tout à y gagner. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans la négociation permanente de positionnement, de place, de candidature à la législative. Moi, sur mon territoire, tous les jours, il y a un nouveau candidat sous l'étiquette d'En Marche. Mais tous les jours. Et l'objectif, finalement, est le positionnement des uns et des autres. Mais qui se préoccupe aujourd'hui de la construction de ce projet commun ? Un projet commun qui doit avoir un socle républicain. Parce que pourquoi aujourd'hui beaucoup de socialistes se tournent vers Macron ? Parce qu'il assure ce socle-là autour de la fraternité, du respect des différences culturelles, sociales, religieuses. Il ancre dans la réalité le principe de laïcité. Et c'est pour toutes ces raisons, pour tous ces socles de base, qu'on est certain à pouvoir écouter ce qu'il dit.
Alors on l'a compris, vous ne partagez pas forcément les points de vue de votre candidat, il faudrait donner la date d'enregistrement de l'émission.
Vous allez le dire d'ailleurs, vous pouvez le dire dans cette émission, que vous n'allez peut-être pas attendre le deuxième tour, que vous allez rejoindre d'ici le mois d'avril Macron.
Mais évidemment, mais dans tous les cas, il faut que j'arrive à...
Évidemment, vous allez le rejoindre,
c'est ça ? Non, évidemment que j'annoncerai très clairement mon positionnement sur
le dire,
ces présidentielles.
Vous allez le faire ?
Le faire, je ne sais pas encore. Je vous le dis honnêtement, je ne le sais pas encore. J'attends, j'espère profondément que Benoît Hamon fera un pas vers Macron pour nous, pour la France.
Donc vous allez le rejoindre, Macron.
Peut-être que Benoît Hamon fera ce pas-là.
Michel ?
Une question sur le fond aussi, hein, pour revenir sur le fond du débat. Benoît Hamon s'entoure pour préparer sa campagne. Il est allé chercher Thomas Piketty, l'économiste. Et cette famille politique qui est à la tête du PS actuellement dit que le problème, le désamour aussi des gens de la politique, l'abstention, le vote populiste s'enracine sur le développement des inégalités sociales et qui sont dues à des politiques libérales, à des politiques liées à la finance, et qu'il faut réguler, et qu'il faut, sans être forcément révolutionnaire, mais qu'il faut réguler cette politique-là et reprendre la main politiquement là, sur...
Mais bien sûr, c'est un discours auquel j'adhère, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne sont pas assez protégés dans leur quotidien. Donc, par le quotidien, je passe par la case travail, je passe par la case famille, je passe par la case éducation et école. Même si le gouvernement d'Hollande a réussi à faire chuter le taux de décrocheurs scolaires de manière quand même assez spectaculaire pour tout un tas de dispositifs qu'on ne va pas lister et détailler forcément, il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'école républicaine aujourd'hui, elle est fragilisée. Le parcours de santé, c'est rigolo parce que ça revient sur l'actualité aujourd'hui, sur le remboursement des frais dentaires ou des frais auditifs, etc. Et chacun revient un peu sur ses positions. Plus personne n'y comprend rien d'ailleurs. Mais sauf que ces questions-là, c'est comment protéger. C'est pas uniquement une question de gestion de la finance. C'est protéger le parcours de chaque Français, de sa naissance jusqu'à sa mort. Avec tout un tas de débats.
Alors presque revenir au revenu universel d'Hamon, là.
Non.
Parce que finalement, ce qu'il dit dans le revenu universel, ce qu'il dit, c'est que c'est pour les plus pauvres. Il veut agir par étapes, éradiquer la pauvreté par l'automatisation du RSA, revalorisé de 10%, c'est-à-dire le porter à peu près à 600 euros et le distribuer aux 18-25 ans. Vous devriez être d'accord pour cette mesure de gauche parce qu'elle permet un filet de sécurité qui permet justement de choisir, vous parliez tout à l'heure de travail, d'emploi.
Mais ces filets de sécurité, ils existent aujourd'hui, hein. Le problème, c'est qu'ils existent.
Les inégalités se creusent dans le pays.
Les inégalités se creusent, oui et non. Parce qu'elles se creusent par ce qu'on appelle des trous. Dans le langage de la formation professionnelle, on appelle ça les trous de la raquette. Parce que dans un parcours, vous riez, mais c'est comme ça. C'est ces trous-là, ce sont ces ruptures où à un moment donné, les dispositifs d'accompagnement financier et sociaux existent, mais le temps qu'ils se mettent en place, le temps qu'on prenne connaissance qu'ils existent et qu'on entame les démarches, il est déjà trop tard. Il y a déjà un mois qui est passé, on ne sait pas comment on va remplir son frigo et on ne sait pas comment on va nourrir sa famille. Donc elles vont se creuser à ce moment-là, ces inégalités. Donc moi, ce que je propose, ce n'est pas de lisser en disant il y aura un revenu qui permettra à chacun d'avoir la même chose. Non, moi ce que je dis, c'est qu'il faut véritablement révolutionner l'institution, les institutions, toutes dans leur spécificité, celle autour de l'emploi, celle autour des indemnités, celle autour de la santé, celle autour du handicap, celle autour de l'instruction, de l'éducation et de la formation professionnelle. Il est là l'enjeu pour moi.
Michel ?
Alors, une autre question, on va avancer vers les législatives aussi. Les sondeurs ont beau hésiter, ont beau avoir du mal à faire les photographies en ce moment. Marine Le Pen est dans une fourchette qui lui assure quasiment sa présence au second tour des élections. Le Front National est très très haut. Vous venez d'un département où il est très ancré, avec Fréjus, qui est la plus grande ville de France, hein, dirigé par un maire Front National.
Jeune, un maire est plus jeune, le plus jeune sénateur.
Sénateur
de France,
hein, on a aussi la députée la plus jeune de France qui est dans la région et qui est au Front National.
La jeunesse, ce n'est pas toujours un atout. Hein.
Qu'est-ce que vous dites de cet enracinement-là et dans la séquence? Est-ce qu'il y a un risque? On a Trump aux États-Unis à la tête de la première démocratie, dite démocratie du monde. Est-ce qu'il y a un risque de bascule de ce pays-là?
Je pense que oui, il y a un risque parce qu'aujourd'hui, quand il y a encore 10 ans, on parlait de front républicain, quand chacun que nous sommes plutôt à gauche, nous avons mis... Ah, pas moi, j'étais pas majeure en ce temps-là. Le bulletin Chirac dans l'urne, c'est un système qui ne fonctionne plus. Pour autant, la peur est toujours présente. Notre région, la région PACA, est toujours mise sous le feu des projecteurs parce qu'elle est le symbole de la montée du Front National. Un Front National d'ailleurs qui est souvent différent qu'ailleurs, même dans le Nord. Marion Maréchal Le Pen incarne une ligne très dure, notamment pour les femmes, où elle met à mal le droit à l'avortement, la contraception. Il y a une vision très, très archaïque. Et puis après, on est sur les bords de la Méditerranée. Et on a du mal, la fracture se fait entre ceux qui veulent construire avec cette diversité culturelle et ceux qui restent sur des schémas très anciens. Moi, je suis une fille de pied noir. Je suis une fille de pied noir et je suis fière d'être une fille de pied noir parce que mes grands-parents ont été coopérants, sont restés tard en Algérie, des instituteurs, des professeurs. Et j'ai une autre histoire à porter que celle qu'on entend majoritairement à la télé et souvent bien plus fort que d'autres histoires comme la mienne.
Vous, à Debout la Gauche, le mouvement dont on parlait régional que vous avez mis en place, vous étiez tous les têtes de liste de Christophe Castaner contre le Front républicain, l'appel à voter Estrosi. Toujours
je maintiens.
Avec le recul
je maintiens.
Sur cette position-là.
Oui.
Objectivement, Marion Maréchal Le Pen aurait été élue, aurait pu être élue. Enfin, il y avait en tout cas des risques très très élevés.
Il y avait des risques. Il y avait des risques, mais si vous voulez, on a mené une campagne sur ces régionales en rassurant notre électorat de gauche en disant « Ne vous inquiétez pas, on ne vous lâchera pas ». Même nous, on y a cru, hein. Les 5 têtes de liste que nous étions, tous les partenaires, y ont cru jusqu'au soir du premier tour. Parce qu'on demandait cette garantie-là, de dire on ne cédera pas à la pression. Pourquoi? Parce qu'en face de Marion Maréchal Le Pen, c'est Christian Estrosi. C'est pas un Xavier Bertrand. Il y a une différence idéologique entre ces deux politiques-là. Et malheureusement, la réalité a bien confirmé quand Estrosi propose une motion anti-migrants au Conseil régional PACA, que le Front National applaudit. C'est notre discours qui est mis en lumière. Quand on disait qu'Estrosi, Le Pen, c'était la même chose, parce que la porosité de leurs idées, elle était palpable dès le moment de la campagne, et qu'on disait non, il faudra qu'on soit présent, c'est toujours valable. Vous savez, aujourd'hui, on n'y est plus, on n'existe plus, hein, donc à la région. Les élus de la majorité sont de droite, l'opposition est Front National. Et nous, on nous dit, mais alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Mais on ne peut rien faire.
C'est également le cas au conseil départemental du Var.
Exactement. Alors, on a un peu plus l'habitude.
Vous êtes déjà retiré en 2015 au profit de
l'UMP. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les affaires du département, on a beaucoup de mal à les suivre. Parce que quand on n'est pas élu dans l'opposition, on n'a pas accès au dossier. Donc, parce qu'on n'a pas accès au dossier, comment voulez-vous qu'on puisse porter une analyse, une contre-analyse, une proposition ou une contre-proposition? On n'y arrive pas.
Faisons de la politique fiction, Fillon, Le Pen, on s'abstient.
Moi, je vais à la pêche, en tout cas.
D'accord.
J'aime bien la pêche.
Ça, c'est important. Cécile Muscotti, vous avez 29 ans. Mm-hmm. Vous venez de dire, finalement, pour les présidentielles, en cas de face-à-face entre Marine Le Pen et François Fillon, vous n'irez pas voter. Exactement. Vous irez à la pêche.
Ou j'irai voter blanc. Mais je ne voterai pas, et ça, je le dis, je le maintiens.
Au risque de voir Marine Le Pen présidente de la France.
Exactement. Au risque de voir Marine Le Pen présidente de la France. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas... Moi, je n'en peux plus. Ça fait une bonne dizaine d'années que je fais de la politique. Je ne vais pas systématiquement m'asseoir sur mes convictions, m'asseoir sur mes valeurs républicaines pour faire barrage à... C'est terminé.
Il y a quelque chose qu'on a de mal à suivre. C'est-à-dire, il y a un quart d'heure, vous nous expliquiez que la distinction droite-gauche, elle était à débattre, que vous êtes prêt à rallier un candidat qui dit « je suis de droite et de gauche ». Et maintenant, vous nous dites « mais même face à un danger, parce que vous qualifiez le Front National d'extrême droite, de cette nature-là, eh ben, il faut s'abstenir parce
non,
que
y a deux choses.
La droite républicaine, elle est soluble dans l'extrême droite.
Ah, mais François Fillon, ce n'est pas la droite républicaine.
Ah si. Ah. François Fillon, c'est la droite républicaine.
Ah, c'est une droite.
C'est un élu républicain.
C'est un élu républicain, évidemment.
Il peut
mais
avoir
qui,
des
même
idées
lui,
voilà, ou mais des qui... propositions qui peuvent paraître extrêmes, mais c'est un élu républicain.
Il a des propositions qui paraissent pas, qui sont extrêmes. Et donc la question, il y a deux questions. Il y a la question de travailler le projet, de ce qu'on propose aux Français avant le vote, avant le premier tour. C'est, est-ce qu'on est en capacité, au-delà de l'appareil droite-gauche, et non pas des idées droite-gauche, au-delà de l'appareil droite-gauche, de venir mettre sa petite pierre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on arrive à créer un projet qui assure les valeurs fondamentales de notre République, les valeurs fondamentales de notre démocratie, on peut, dans ce cas-là, aller au-delà de ces limites d'appareil et proposer ce projet-là. En l'occurrence, François Fillon n'est absolument pas dans cette démarche. Donc François Fillon a un programme qu'il déroule au fur et à mesure, alors qu'il change un petit peu en fonction des échos des uns et des autres. Mais en tout cas, sa ligne politique est assez claire, elle est assez dure. Lorsqu'on le compare à Margaret Thatcher, ce n'est pas pour rien. Et donc il est hors de question que je sacrifie, et je le redis, mes convictions pour un candidat de cette nature qui détruirait l'avenir de la France.
Il y a quand même un distinguo, en particulier sur la question de la xénophobie. Vous en parliez à propos du Front National.
C'est pas mineur comme thème.
Il a été beaucoup moins sur ces questions, par exemple, qu'un Nicolas Sarkozy. Clairement. Enfin, il n'a pas incarné cette ligne. Peut-être maintenant, c'est en train de changer, mais il n'a pas fait campagne là-dessus.
Non, parce qu'il était dans un premier temps sur une campagne anti-Sarkozy. Quand on analyse un tout petit peu ce qui se passe, il s'est rendu compte que Sarko avait voulu jouer sur les terrains du Front. Ça avait fonctionné un temps, c'était plus compliqué aujourd'hui, et qu'il fallait qu'il marque une rupture à l'intérieur même de sa famille politique, ce qu'il a réussi à faire. Et puis finalement, le naturel revient au galop et on sent ce privilège donné à certains et pas à d'autres. Elle est là quand les gens dans la rue me disent « Mais c'est quoi la différence entre la droite et la gauche ?» La différence, elle est que, justement, peu importe d'où l'on vienne, peu importe son statut, peu importe sa culture, peu importe sa religion, on est là pour assurer le respect de chacun. Et ça, on ne le retrouve pas chez Fillon. Et parce qu'on ne le retrouve pas, je ne pourrai jamais mettre mon bulletin dans l'urne pour lui.
Il y a peut-être une question sur la moralisation de la vie politique. Et on parle de Fillon, il y a toutes ces questions sur les emplois fictifs et cette affaire qui pèse. Mm-hmm. Vous pensez qu'il devrait renoncer, il aurait dû renoncer à cette campagne compte tenu des accusations qui portent sur lui ?
Je pense qu'à un moment donné, au-delà de son honnêteté qui est complètement finalement remise en cause, c'est toute l'incarnation du politique de manière générale qui est une fois de plus mis à mal. Moi, je pense que dans mes propositions, même si on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais je veux mener une campagne, je veux construire un projet participatif, mais il y a quand même quelques propositions que je mettrai en avant, notamment celle à un moment donné de dire non, il faut interdire l'embauche d'un membre de sa famille lorsque l'on est député. Mais vous savez, à double sens, parce qu'on pourra être peut-être moins strict avec quelqu'un de sa famille, on peut être moins exigeant, ou au contraire, lui demander beaucoup plus parce que c'est quelqu'un de sa famille. Et je pense que si on veut éviter à l'avenir ce genre de circonstances très désobligeantes pour les uns et pour les autres, il faut clairement statuer avec la loi là-dessus.
Alors vous réclamez aussi le non-cumul des mandats, l'application stricte et rigoureuse, et aussi le non-cumul dans la durée des carrières courtes en politique.
Oui, et parce que derrière, et c'est vraiment tout l'enjeu de mon engagement et de ma candidature aux législatives, c'est qu'il faut re-questionner le statut du politique aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'on fasse de la politique toute sa vie. Qu'on milite, évidemment, avec plaisir. Mais il n'est pas normal qu'on enchaîne comme ça les mandats toute sa vie. Il faut que la politique, le temps politique soit défini. Il faut que ce soit des gens...
Cécile Muscotti, vous avez commencé à 19 ans, vous avez intégré un conseil municipal, vous avez intégré des responsabilités au sein de la Fédération socialiste du Var. Vous postulez aujourd'hui à la députation dans la deuxième circonscription. Vous allez vous arrêter quand ?
Ah ben, pour l'instant, j'ai jamais eu, à part ce mandat de conseillère municipale.
Oui, mais non, ça fait partie de la vie politique.
Ah ben oui, mais c'est sur mon temps personnel. C'est-à-dire qu'à côté de tout ça, j'ai fait mes études, j'ai trouvé du travail, puis j'étais un peu au chômage aussi, puis finalement j'ai retrouvé un autre travail. Moi, ce que je dis, c'est qu'un politique, pour qu'il puisse nous représenter dignement, il faut qu'il ait un travail avant. Si ses fonctions politiques, comme celle de député, qui nécessite évidemment beaucoup de temps, on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas et travailler et être député, qu'il ait son temps de mandat sur la députation ou sur un autre type de mandat, mais qu'après, il retourne dans la vie active. Pas qu'il vive à vie de revenus, de retraite, de je ne sais quoi.
Donc c'est vous allez faire qu'un seul mandat de député si vous êtes élu et après vous arrêtez la vie politique.
Bien sûr.
Alors, j'ai envie de citer votre premier secrétaire dans le Var, Bernard Giner, que personne ne connaît, mais en tout cas ici, mais bon, ça ne fait rien, il est sûrement quelqu'un de qualité.
Non, je crois qu'il est assez connu, hein, vous savez.
Ah ben voilà, c'est très bien. Alors, on apprendra à mieux le connaître,
oui,
c'est notre faute.
Il faudra l'inviter.
On l'invitera. Qui dit, mais il parle du Var et de ce grand chantier pour la gauche, il parle encore de gauche, lui, dans le Var. Et il dit, mais ça prend du temps. Se faire élire, ça prend du temps. Et un chantier pareil, c'est 15 ans de travail, etc. Bon, peut-être que vous n'êtes pas la même temporalité. Mais...
Ce qui est intéressant avec Bernard Giner, depuis qu'il a pris ses fonctions, alors justement, lui ne se présente à aucune élection. Il a décidé d'utiliser et de mettre tout son temps, puisqu'il vient de prendre sa retraite, à disposition du Parti Socialiste.
C'est un coup vache, c'est quand il vient de prendre sa retraite.
Il vient de prendre sa retraite il y a un an de ça, ou deux ans. Et tout son temps, il le met à la reconquête du département. Et donc, il remet les sections et les secrétaires de section et les militants au travail. Donc ça, c'était un travail. Et heureusement qu'il a une vision sur du long terme. Ça nous permet, nous, dans ce calendrier de travail beaucoup plus long, d'y positionner les temps de campagne. Vous savez, aujourd'hui, les appareils politiques, ils souffrent de ces campagnes électorales en permanence. Moi, j'ai l'impression d'être en campagne électorale sans arrêt. Alors que Bernard Giner, lui, sur cette fédération, permet systématiquement de revenir au travail de fond, en l'occurrence pour notre département.
Alors, entre autres, il rappelle que Robert Gaïa, qui était le député socialiste, le dernier député socialiste du PAR, celui de la circonscription que vous allez essayer de gagner, il n'a pas gagné du premier coup. Il s'y est pris à plusieurs fois.
Exactement.
Oui, allez-y.
Non, mais c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, surtout. Et je le répète, quand on a une vie active à côté, c'est-à-dire que moi, je vais utiliser mes fins d'après-midi, mes week-ends pour aller rencontrer les citoyens. Donc, je ne suis pas comme tous ces députés sortants ou ces élus qui vivent de retraite, de je ne sais quoi. Je n'ai pas tout un temps devant moi. Donc, ça prend du temps d'aller parler à chacun. Cette circonscription, d'ailleurs, n'est plus la même que celle de Robert Gaïa. Hein. Elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus grande.
Alors, on a parlé tout à l'heure législative. Parlons de votre département où vous présentez le Var, où les socialistes n'ont aucun député, aucun conseiller régional, on l'a dit, aucun conseiller départemental. Vous avez évoqué le chiffre, vous l'avez confirmé en tout cas, celui de 500 encartés à la Fédération socialiste du Var. C'est un triste état des lieux. Comment vous analysez cette disparition, quasi-disparition en tout cas des socialistes dans le Var?
La disparition des socialistes et la disparition surtout, je pense, de la jeunesse qui s'exprime, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous regardez les taux d'abstention dans mon département, c'est dramatique.
On va être tout de suite méchant comme ça, vous irez directement.
Est-ce
que c'est le bilan de Robert Alfonsi qu'on a reçu ici même d'ailleurs?
Peut-être. Je pense qu'il porte une responsabilité.
Le désert socialiste, c'est la faute de Robert Alfonsi.
Non, là, c'est vous qui en faites un raccourci.
Non, je traduis ce que vous dites.
Non, mais là, ça part de responsabilité. C'est-à-dire que quand on avait ces personnages politiques-là, que j'ai connus quand j'ai adhéré au Parti Socialiste, à un moment donné, au lieu de transmettre leur expérience, leur savoir, leur vécu politique à la nouvelle génération qui arrivait, et de leur dire « Allez, allez-y vous aussi, allez vous présenter à des élections, partez au combat, on est derrière, on vous pousse, on vous porte. » Non, non, non. Ces gens-là n'ont jamais voulu laisser leur place. Et moi, j'ai vu de jeunes hommes et de jeunes femmes partir, quitter les rangs, parce qu'au bout d'un moment, on leur laissait pas la place de s'exprimer. Donc oui, ils portent une forme de responsabilité. Parce qu'à force de vouloir être toujours le candidat, toujours être le patron du parti, etc., etc., ben on fait fuir, et on fait fuir les jeunes socialistes.
C'est-à-dire que là, vous avez de la place, parce que c'est un désert, c'est ça?
Très honnêtement, c'est plus facile aujourd'hui. On en cherche des candidats, hein, que ce soit à droite ou à gauche, hein, d'ailleurs, des jeunes. Hein. Allez-y, hein. Il y a de la place, mais c'est dramatique.
Michel.
D'accord, donc la circonscription, donc la deuxième, donc qui a été redécoupée, Vittel. Donc là, on a vraiment affaire à un baron, ce qu'on appelle l'incarnation du baron local en politique.
Complètement.
Vous pensez avoir une chance, malgré cette donne très complexe dont on vient de parler au national, une chance de l'emporter?
Je pense que je peux l'emporter parce que je vais proposer quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont aigris. Philippe Vittel ne satisfait pas les habitants de la circonscription. Mais on n'a pas vraiment d'autre choix. Alors, soit on vote, soit on ne vote pas. Et c'est plus, je pense, par le manque de participation qu'il est élu. Il faut rappeler quand même en 2012 ce qu'a dit Philippe Vittel à l'entre-deux-tours sur cette triangulaire où la candidate socialiste était
il a failli perdre, hein, on rappelle.
Il a failli perdre.
Mais il y avait une triangulaire, le Front National était très très haut.
Exactement, et c'est pour ça
le Front National a failli gagner.
Et le Front National a failli gagner, et à ce moment-là, à l'entre-deux-tours, il dit dans Var Matin, texto, qui mieux que moi peut aujourd'hui représenter les idées du Front National. Donc c'est un candidat particulier dans le Var, c'est-à-dire qu'il n'a pas hésité une seule seconde à aller sur ce terrain-là. Aujourd'hui, il a peur, il n'a pas peur de moi, hein. Il a peur du Front National.
Est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sachant tout cela, vous pouvez faire campagne pour les législatives sur des thèmes comme ceux des migrants, par exemple. Il y a une hostilité dans toute la région. On a vu que la justice se mêlait, etc. Mm-hmm. Et également de ça avec l'affaire Cédric Herrou, l'agriculteur azuréen qui avait aidé les migrants. Est-ce que vous allez pouvoir évoquer ce genre de choses ou est-ce que vous allez droitiser votre discours également?
Pas du tout, pas du tout. Je veux surtout créer les conditions de la discussion qui n'existe plus dans cette circonscription depuis des années. Vous savez, avant Philippe Vittel, c'était son père hein, aussi. Hein. C'est quand on parle de baron, c'est une véritable dynastie. Donc, il n'y a plus de dialogue. En revanche, vous posez la question de qu'est-ce qui a changé depuis ? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Sur le transport ? Sur l'environnement dans lequel vous vivez, sur le bien vivre ensemble au sein des quartiers, parce que cette circonscription est une partie du cœur de Toulon, des quartiers populaires, des cités qui aujourd'hui s'effritent. Mais c'est frites au sens propre, au sens figuré. Et les gens, on en marre. Quand il y a eu ces polémiques d'agression, etc., dans ces quartiers, c'était intéressant d'aller discuter et parce qu'on soulevait tout un tas d'autres problématiques. Aujourd'hui, les gens veulent pouvoir vivre dignement et ils n'y arrivent pas. Donc moi, ce que je veux leur proposer, c'est-à-dire construisez avec moi le projet politique. Moi, je ne vais pas venir vous imposer ma façon de voir les choses.
C'est du réchauffé, ça. Ségolène Royal l'a déjà fait. Macron essaie de le faire. Il n'y a rien de nouveau à proposer
moi,
ça.
Non, alors si. Si, il y a quelque chose de nouveau, c'est de dire, pour une fois, le projet politique, ce ne sera pas le projet du candidat socialiste à cette élection législative. Ce sera le projet que l'on aura construit ensemble. Mais clairement, vous savez, pour les départementales, j'avais lancé une plateforme numérique citoyenne. On a eu plus de 350 contributions déposées. C'est avec ces contributions-là qu'on a construit le projet. Moi, je ne suis pas une spécialiste de tout. Autant je peux avoir un regard un peu plus poussé sur tout ce qui est emploi et formation professionnelle. Mais en revanche, il y a des associations, il y a des entreprises sur le territoire, il y a des gens qui ont plein de choses à dire. Mais il faut leur laisser la place de s'exprimer. Donc ça va me prendre du temps.
Alors, et vous avez des modalités. Alors on y a fait une allusion, mais nos éditeurs ne le savent pas forcément. Il y avait eu un fait divers avec une jeune fille ennuyée parce qu'elle portait un short dans un bus. Et vous aviez donc, vous étiez exprimé politiquement sur le sujet et organisé une manifestation en short.
La marche des shorts à Toulon.
La marche des shorts à Toulon.
Place de la Liberté. C'était un moment.
C'est important d'aller sur ces sujets-là. Alors on attend. Et d'ailleurs, il y a un bras de fer avec le Front National sur ces questions-là à Toulon, avec vous. C'est important d'y aller quand on est de gauche sur ces questions-là.
Évidemment. Et le problème, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de militants de gauche partir finalement d'un fait divers, hein, dramatique qu'il soit, mais d'un fait divers. Et de dire, il se passe ça dans notre territoire, on stoppe, on se réunit et on en discute. Et parce qu'on en discute, on va trouver des portes de sortie. Et c'est tout l'intérêt de construire un projet politique de cette manière-là. Cette marche des shorts, je vous l'avoue, hein, très honnêtement, j'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit, mais qui va venir à cette marche des shorts ? Est-ce que je vais me retrouver avec la bande de fachos de Navarane et de Bocaletti ? Ou est-ce que d'autres personnes auront compris que c'est pour construire quelque chose derrière. Et jusqu'au dernier moment, j'avais cette peur-là. Et ça s'est plus que bien passé, puisqu'on a fait tout un tas de rencontres avec des citoyens qui ne sont pas engagés ni dans le monde associatif ni dans la politique, mais d'autres, par contre, qui le sont, notamment des femmes, dans des associations de combat plus féministes. Et on a remis sur la table l'éducation.
Cette marche des shorts a interrogé sur la laïcité. Est-ce que vous allez, dans ces quartiers populaires, parler de laïcité, reparler de laïcité ?
Il faut. Mais attention, parce que ces sujets-là, le problème, c'est qu'il ne faut pas agiter le drapeau de la laïcité n'importe comment. Il faut vraiment partir du texte de loi. Et ces cafés-débats, on peut les appeler comme on veut, ces rencontres en tout cas avec les gens.
Vous n'êtes pas pour la réforme de ce texte de loi, réformer la laïcité pour l'adapter à l'islam, par exemple ?
Absolument pas, parce que quand on regarde le texte en lui-même, vous savez, la laïcité, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre, une loi de restriction. C'est une véritable loi de liberté. Et je pense qu'à partir du moment où on la respecte dans sa valeur première, elle permettra à chacun, peu importe sa religion, de vivre, et, mais pouvoir aussi de pratiquer librement sa religion. Chacun devrait avoir le droit de. Et dans la loi, dans cette loi-là, à aucun moment, on compare l'islam à la religion catholique ou autre. Non, à aucun moment. Donc, on a fait de faux débats. On a agité des peurs et de mauvais drapeaux.
Le sujet est risqué. Il y a eu à Toulon aussi, quelques mois plus tard, il y a eu un fait divers avec une agression qui a été, à un moment donné, interprétée comme liée à la tenue vestimentaire de deux jeunes femmes. Et ce n'était pas le cas.
Exactement.
Cette fois-ci.
C'est ça. C'était deux choses différentes.
C'était deux choses différentes. Il y avait effectivement eu un problème d'agression, mais pas lié aux vêtements. Et là, le Front National s'est engouffré là-dedans. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un bras de fer. Vous avez été vous-même victime sur les réseaux sociaux, je le disais, donc de choses très, très, très violentes.
Hein, appel au meurtre, très violente, au viol. Exactement. Appel au meurtre, appel au viol collectif, avec des mots que j'oserais... je n'oserais absolument pas citer ici. Et c'était très révélateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je ne m'exprime pas du tout sur ce deuxième fait divers-là, hein, qui a été très grave. Hein. L'agression a été d'une gravité qu'on ne peut pas mettre de côté dans une ville. Mais la violence de ces réactions politiques permettait... finalement au Front National de se dévoiler. Eux qui, depuis des années, essaient de faire croire aux Toulonnais, aux Varois, aux Français de manière générale, qu'ils sont un parti politique comme les autres, là, par leurs propos, par leur violence, par la haine des autres, montraient véritablement qu'ils n'étaient pas un parti républicain, qu'ils n'étaient pas un parti digne de pouvoir gagner, et ne serait-ce, je vais plus loin, ce n'est pas un parti digne de se présenter aux élections.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Vous présentez aux législatives une ou peut-être deux, même si on sait que vous allez faire appel aux citoyens pour constituer l'ossature de votre programme. Vous avez peut-être une ou deux idées fortes pour ces législatives ?
On est en train d'y réfléchir, puisque je veux pas faire ça toute seule. Mais c'est vrai que je pense que la première idée sur le fonctionnement institutionnel des politiciens, c'est de dire, et des équipes, et sous-entendu aussi de l'argent qu'il y a derrière, des indemnités qui sont liées à une activité politique, c'est de dire stop, on ne peut plus autoriser l'embauche d'un membre de sa famille lorsqu'on est un député. Donc en l'occurrence, on ne peut pas embaucher un membre de sa famille comme attaché parlementaire. Ça suffit, on arrête. Après, il y a d'autres sujets qui m'intéressent particulièrement, comme le remboursement de la contraception. C'est pas parce que je suis une jeune femme, mais ça a été un sujet qui a été au cœur de mon territoire pendant ces régionales-là. Et je pense qu'il faut mettre à plat et proposer un remboursement total de toutes les formes de contraception pour les jeunes filles, comme pour les jeunes femmes, comme pour les femmes tout court.
Debout la gauche, ça a été un slogan. Est-ce que c'est devenu un mouvement ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre de côté en attendant la fin de ces échéances électorales ?
C'est un mouvement. Ce n'est pas qu'un slogan puisqu'il nous a permis, sur le même principe hein, que cette campagne.
Vous êtes combien si c'est un mouvement ? Vous êtes nombreux ? Vous êtes,
Alors, y a pas Alors, par contre, il n'y a pas d'adhésion comme sur le mouvement En Marche. Donc, on a été à peu près entre 15 et 35 participants sur chaque atelier dans toute la région PACA. Des ateliers qui nous ont permis de récolter des propositions. C'est chose faite. Nous avons ces retours-là qui vont nourrir toutes celles et tous ceux qui veulent construire un projet, notamment pour les élections législatives.
Vous deviez écrire un manifeste. Il est toujours sur un coin de table.
Est-ce qu'il a été mis de côté ?
Non, c'est ce que je vous disais. Nous avons récolté et nous avons rédigé finalement le résumé de toutes ces propositions. Moi, je sais que je vais m'en servir pour la construction de mon projet aux élections législatives, libre à chacun. À partir du moment où...
Vous allez le soumettre à un des candidats qui...
Si Macron ou Benoît Hamon le veulent, avec plaisir, nous leur ferons lire, parce que ce serait un véritable attachement à la réalité de terrain, et ça ferait peut-être pas de mal.
Cécile Muscotti, on vous remercie. On arrive au terme de cette émission.
Merci.
On vous dit au mois prochain. Bye.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenoble.